Voilà, nous allons débuter donc cette nouvelle table ronde ferroviaire dans le cadre du sommet de mobilité ferroviaire durable. Et donc hier soir, nous étions réunis pour, sur le thème de l'innovation ferroviaire. Aujourd'hui, nous allons parler des CERM. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous, les services express régionaux métropolitains. Nous allons échanger sur le projet de CERM de l'aire clermontoise. On aura aussi un petit peu du CERM stéphanois. Et donc, comme sous-titre, vous l'avez vu dans la présentation, dans l'annonce de ce débat, de cette table ronde du programme du sommet, nous avons souligner que les services express régionaux métropolitains donc, sont une nouvelle chance pour le développement du rail en France, en prenant en compte l'innovation et la multimodalité et la frugalité en termes d'infrastructures, si possible, donc des approches économiques raisonnables, la frugalité très chère à notre président d'Arnouba, Patrick Oliva. Voilà, et donc pour cette table ronde, donc moi-même en tant qu'animateur François Pelletier, donc pour le groupe de travail ferroviaire d'Orbimab, nous avons 6 intervenants. Tout d'abord Anne-Céline Imbeau de Trogoff, donc de la Société des grands projets, venue spécialement pour le sommet des mobilités, on la remercie, directrice exécutive, alors je prends mon souffle, auprès de la direction du développement des transports territoriaux de la Société des grands projets. Alors la Société des grands projets, Madame de Progoff pourra en parler mieux que moi, mais c'est l'établissement public national sous tutelle du ministère des Transports, et de Bercy, c'est important de dire, qui est chargé, bien sûr, d'aider à la mise en place d'une douzaine de CERM dans les grandes métropoles régionales françaises. Voilà, on avait évoqué d'abord la première appellation, c'était les RER des régions, mais c'était un peu parisien, et la version CERM qui est venue après, qui est plus adaptée. Nous avons également aujourd'hui présent avec nous, et on remercie Frédéric Denichon, maire de Châtel-Guyon, président de la communauté d'agglomération RLB pour Rion, Limagne, Volcan, conseiller régional et surtout là, aujourd'hui, président du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne. Instance qui regroupe près de 700 000 habitants, c'est pas négligeable sur le territoire, et le pôle métropolitain, on verra qu'il joue un rôle très important pour l'accouchement du CERM de l'aire clermontoise, avec déjà des premiers résultats dont Frédéric Bonichon nous parlera. Jean-Yves Bechler, à côté de Frédéric Bonichon, directeur général du SNTC, syndicat mixte des transports de l'aire clermontoise, de la métropole clermontoise, bras armé de la métropole pour les transports, le SNTC, donc, qui joue aussi un rôle très important pour l'accouchement de ce CERM de l'aire clermontoise, avec le pôle métropolitain. Il faut qu'on puisse, Frédéric Bonichon et Frédéric Bechler, pour ce dossier majeur. Donc, on y reviendra. Delphine Ligman, donc, députée de la 4e circonscription Sébastien, du Puy-de-Dôme, je ne me suis pas trompé, qui s'est beaucoup mobilisée à l'Assemblée nationale pour, notamment, le Clermont-Paris, qui, ne pose jamais de problème, mais quand même qui mérite, voilà, qui mérite un grand investissement, mais qui suit aussi avec beaucoup d'attention et qui s'est mobilisé aussi à l'Assemblée nationale sur notre CERM. On y reviendra avec elle. Antoine Goupil, également à ma gauche, qui est chef délégué, comme si je prononce, du service mobilité aménagement de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et qui nous dira aussi quelle peut être la contribution des services de l'État en région pour l'émergence de ces CERM. Et enfin, Gilles Petitet, qui est déjà intervenu hier soir dans la rencontre sur l'innovation ferroviaire, qui est directeur technique à la direction des technologies, encore une fois, je prends mon souffle, direction des technologies de l'innovation et des grands projets de l'ETF, et responsable d'un projet tout à fait intéressant porté par la SNCF, qui est le projet TELI pour les trains légers innovants, qui représente peut-être l'avenir à l'horizon 2030 pour les nouveaux trains qui vont succéder au TER à diesel, ceux qui fonctionnent au diesel, voilà, des trains légers, on nous dira combien ils peuvent apporter aussi des solutions pour les CERN, pour la mise en place des CERN. Voilà, alors on va essayer de rester dans le temps imparti. Chaque participant a quelques minutes pour présenter un petit peu sa vision. Et il y aura bien sûr un temps d'échange important avec la salle. L'objectif, c'est de ne pas être techno, d'être grand public. Donc on va éviter aussi les acronymes divers et variés. Voilà, et donc on commence tout de suite par Madame de Frogloff en posant la question qui ne fâche pas, mais est-ce que les CERN sont toujours d'actualité à l'ère de la grande disette budgétaire française actuelle?
Merci beaucoup. Bonjour à tous, et ravi d'être parmi vous. C'est une grande chance pour la SGP, Société des Grands Projets, de pouvoir accompagner ces projets de services express régionaux métropolitains et de pouvoir être ici pour parler de celui notamment de Clermont et peut-être de celui de Saint-Étienne. Alors, la question, elle est compliquée. Peut-être que je vais commencer par vous dire que on n'est pas inquiet parce qu'on avance. On arrive à avancer à ce stade, donc c'est évidemment pas moi qui pourrait faire une quelconque annonce sur le financement des CERN, et puis je sais pas si quelqu'un est capable d'en faire dans les temps qui courent, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on avance. La loi de la fin d'année 2023 qui a créé les CERN, les services express régionaux métropolitains, a donné un élan à des projets qui étaient existants, qui préexistaient, divers et variés, d'amélioration des mobilités du quotidien, mais leur a donné un élan en les liant entre eux, en appelant les autorités organisatrices à travailler ensemble pour améliorer ces trajets du quotidien, en appelant les maîtres d'ouvrage à travailler ensemble. Et donc cet élan, évidemment, il ne s'arrête pas, il continue, et je pense que c'est notre responsabilité collective aussi de réussir à continuer à le faire avancer. Alors, la Société des Grands Projets, c'est un établissement en quelque part, un établissement public national qui avait été créé pour poursuivre deux objectifs de politique publique, décarboner les transports de la région parisienne et les transports donc du quotidien de la région parisienne, et puis désenclaver socialement et territorialement, puisque évidemment, on est en parisienne, c'est dense, mais les banlieues, la périphérie, n'avaient pas d'accès aux transports en commun. Et donc on fait un transport, un métro automatique en rocade autour de Paris de 200 km avec 68 gares. C'est pour ça que cet établissement public a été créé. Alors on se dit pourquoi, du coup, cet établissement public pourrait... qu'est-ce que cet établissement public va apporter sur les services express et sur le métropolitain? Et la loi sur les termes qui a été portée par Jean-Marc Zulesi, à l'époque président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, a ouvert la voie d'outils pour ces projets de services express régionaux métropolitains en élargissant les compétences de la Société des Grands Projets, parce que la réflexion, c'était ces deux objectifs de décarbonation des mobilités du quotidien et de désenclavement social et territorial, c'est finalement exactement ce qu'on retrouve pour les services express régionaux métropolitains. Ces sujets, ils ne sont pas propres à l'Île-de-France, et bien sûr que partout ailleurs on les retrouve, et en plus on sait que c'est les zones qui concentrent le plus les périphéries des zones urbaines, les territoires périurbains, c'est les zones qui concentrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi? Juste parce que les gens sont obligés finalement de prendre la voiture individuelle parce qu'il n'y a pas d'autres modes de transport. Et donc, c'est un enjeu majeur pour un certain nombre de métropoles. Et c'est pour ça que finalement la boîte à outils a été ouverte et la Société des Grands Projets peut apporter son concours. C'est jamais une obligation. Donc, les collectivités ne font pas à la Société des Grands Projets pour les accompagner sur le chemin de définition de ces projets. Et donc on peut les accompagner sur, je dirais, trois grandes modalités. Les accompagner sur la définition du schéma d'ensemble, la mise en cohérence justement de l'ensemble des périmètres géographiques, des périmètres de compétences, et donc la définition d'une ambition multimodale de services pour ces territoires périurbains et ruraux. On a un deuxième, on peut apporter également notre concours sur le financement. Là j'y reviens. Puisqu'on a un modèle de financement sur la Société des Grands Projets, on a un modèle de financement qui nous permet, par lequel on lève de la dette sur les marchés, de la dette verte, pour financer ce grand projet de 36 milliards d'euros qui est le Grand Paris Express. Donc c'est un énorme projet. Et on rembourse cette dette par de la fiscalité francilienne. Ce modèle, il n'est pas duplicable, évidemment, je dirais, point par point ailleurs. En revanche, il permet d'ouvrir, là aussi, la boîte à outils financière pour financer des projets de transport. Alors, en fonction de ça, on a plus ou moins d'infrastructures et plus ou moins de besoins de financement, mais ça permet d'envisager aussi un tel mode de financement pour les services express régionaux métropolitains, à adapter bien sûr avec diverses pistes. Et on sait qu'aujourd'hui, on aura besoin de l'ensemble, je dirais, des modèles financiers existants et des sources de financement possibles pour financer les projets de transport, puisqu'il n'y aura pas une solution sans doute pour y arriver. Et puis dernier point, peut-être parce que c'est lié au financement, c'est la gouvernance, c'est-à-dire le fait justement que tous les acteurs, tant autorités organisatrices que maîtres d'ouvrage, travaillent ensemble pour concourir à la réalisation de ces projets. Et ça va avec les financements, puisque du coup, on est aussi sur une logique de financement croisé, de financement commun de ces projets, avec l'État bien sûr, dont on parlera, mais avec l'État qui a évidemment un rôle majeur à jouer aussi.
Alors, réponse par oui ou par non, simplement à la question, ou presque en quelques mots, à la question, donc les CERN, à 10 ou 10 ou 12 comme ça, qui sont prévus pour les grandes métropoles régionales françaises, vous nous dites aujourd'hui qu'il reste de l'actualité, qu'il ne sont pas menacés.
Ah oui, complètement. Il reste d'actualité. Les annonces, hein, du ministère des Transports parlent régulièrement des CERN. Ça reste d'actualité, c'est un vrai besoin local. Enfin, à partir du moment où la dynamique locale, c'est pas moi qui en parlerai mieux, mais à partir du moment où la dynamique locale existe, il faudra un accompagnement. On a besoin d'informations, évidemment, sur les modalités de financement, sur la manière dont ça va se dérouler. Mais on est tous mobilisés pour que des dossiers de statut de CERN soient déposés rapidement auprès du ministère.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous demanderai aussi votre sentiment sur le CERN stéphanois, parce qu'on excuse Luc François, vice-président de Saint-Étienne Métropole, qui finalement n'a pas pu venir aujourd'hui parler du CERN stéphanois, du projet de CERN stéphanois, qui a été retenu par une intervention au Congrès des maires de France. Donc, Madame Dottfogger, vous connaissez bien aussi le CERN stéphanois, donc je vous demanderai quelques mots là-dessus, solliciterai quelques mots. Et j'excuse aussi l'enseignant-chercheur Frédéric Faucon, qui est à l'origine de la première étude, une des toutes premières études sur le CERM de l'aire clermontoise, produite donc en 2023 à l'initiative d'Orbimob et du commissariat d'État au Massif Central, une étude qui a fait date et qui a aussi contribué à enclencher cette mécanique des CERM. Donc il faut le souligner. Alors maintenant je sollicite bien sûr la vision de Frédéric Bonichon, bien ancré dans le territoire et qui porte fortement cette ambition du CERN.
Merci beaucoup. Je vais enchaîner, Madame, sur ce que vous disiez. Vous parliez de coopération. Et ce qu'on sait faire ici, c'est cette coopération. D'ailleurs, Orbimob réunit tout le monde pour cette première édition. C'est une belle réussite. Et le pôle métropolitain a eu l'ambition, dès le départ, de réunir les collectivités. Moi qui suis un des derniers vieux giscardiens de cette région, André Marcon s'en rappelle, le président giscardien avait lancé il y a 30 ans la vision d'une métropole moderne qui s'appelait Arvernia, qui réunissait 500 000 habitants. Donc aujourd'hui, on est 700 000 habitants, de Vichy à Brioude, de Thiers à Clermont-Ferrand et avec l'ensemble des intercommunalités. 700 000 habitants, c'est en gros la moitié de l'Auvergne, 11 établissements publics de coopération intercommunale, plus la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Auvergne, qui réunit donc l'ensemble des acteurs de ce territoire. On s'est donné trois missions pour pas être en concurrence avec les autres niveaux de collectivité. Premier niveau, accélérer sur l'aménagement de l'Allier, notamment la Via Allier, avec cette voie vélo qui rejoint un autre sujet de mobilité d'ailleurs, de Brioude à Vichy, pour aller se connecter ensuite vers Nevers. Deuxième sujet, le renforcement de l'attractivité industrielle d'un grand territoire, qui rejoint les dynamiques qu'a lancé l'État autour de territoires d'industrie. Et puis, troisième sujet, les mobilités. Et il se trouve que le vice-président de notre pôle, c'est Frédéric Aguilera, qui est depuis devenu vice-président de la région en charge des mobilités. Ça nous a permis d'accélérer. Je voulais dire aussi que, sur ce sujet, en tant qu'agglo de Rion, on va aussi accélérer, puisque, vous le savez sans doute, l'université et la région ont bâti le principe d'ouvrir une école d'ingénieurs à Rion sur le sujet des mobilités. Donc on veut aussi accélérer ça sur l'ancrage local et en développant tout ça autour de l'université de Clermont-Ferrand. On est là, en fait, dans la vision politique de l'avenir du territoire. Et c'est bien que quand des hommes politiques font de la politique, mais de la politique, non pas de la politique politicienne du quotidien, de la vision politique. Et là, on réfléchit à 20 ans, Mais 20 ans, c'est trop long pour un élu local. Donc il faut qu'on réfléchisse loin et qu'on ait des réponses courtes. Et le pôle est dans cette logique-là, puisque nos adhérents sont des élus locaux. Et ce système express métropolitain, il permet sur un certain nombre de sujets. Bon, nous, on a créé un choc d'offre sur mon agglo. C'est la logique aussi du SFTC sur la métropole clermontoise. La région vient de voter aussi un énorme choc d'offre avec plus de 5 milliards d'euros de dépenses dans les prochaines années. Donc on veut qu'il y ait des réponses concrètes, pas à 20 ans, parce que 20 ans, c'est trop long. Et l'intérêt d'être passé du RER métropolitain, qui est une vision ferrée, uniquement ferrée, au système express métropolitain régionaux, qui est une vision multitransport, avec du vélo, avec du bus, avec du car, avec du train, avec du taxi, avec l'autopartage, avec du covoiturage, etc., pour qu'il y ait des réponses relativement concrètes. Vous rappelez l'annonce du président de la République, c'était dit RER métropolitain. Et les élus locaux, partout en France, se sont tous montés des projets de candidature. Et on a dans la région 6 projets, c'est-à-dire un quart des projets sont en Auvergne-Rhône-Alpes, 6 sur 24 qui ont été pré-retenus au niveau national, avec des écarts importants entre le système lyonnais et le système clermontois. Le système clermontois, en fait, il est peut-être le plus simple et le moins coûteux, puisqu'on a déjà beaucoup de choses, et on va, au niveau de chacun de nos AOM, donc, si vous aimez les cycles, il faut rester, hein. Si vous n'aimez pas les cycles, la sortie est au bout. Donc, on a toutes nos AOM qui sont engagées pour des réponses relativement concrètes. Donc, on a 25.
Quand même, je le précise quand même, autorité organisatrice des mobilités.
Merci. Donc, voilà sur, on va dire, l'ambition, des réponses rapides et une vision moyen terme pour que chacun des territoires. Alors, deux mots pour compléter. Le pôle a cofinancé l'étude initiale pour éviter que chacune des AOM le finance, donc aux côtés de l'État et de la région. Deuxième volet qui va démarrer maintenant, c'est l'étude de préfiguration. On parle d'une étude autour de 2 millions d'euros qui va être financée à peu près par les mêmes, mais les autorités organisatrices de mobilité vont prendre le relais du pôle parce que là, on est dans le très opérationnel. Et puis, tout ça va continuer. Mais les études, on parle en millions. Les investissements, on parle en milliards. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas encore complètement la réponse des financements. Il va falloir être inventif. Mais on n'échappera pas à des financements des territoires, du monde économique sans aucun doute, par le biais de versements mobilité, dédiés ou complémentaires. Bref, il y a tous ces sujets-là. On est au début de l'aventure, mais on est sur la ligne de départ.
Au début de l'aventure, vous avez gagné une première manche, puisque le CERM de l'aire clermontoise a fait l'objet d'une labellisation en juillet par les pouvoirs publics, mais ce n'est qu'une première étape, puisqu'après, on passe au dur, c'est-à-dire la convention de financement, l'État disant, j'imagine aussi, étoilé la tête. Donc, tout commence, tout continue.
Tout commence, et sur la vision régionale, on ne voulait pas, le président Wauquiez ne voulait pas choisir entre les 6. C'était intordable de dire, je préfère Saint-Étienne à Clermont, je préfère Lyon à Genève, etc. Donc on a dit, on accompagne les 6 dans l'étude de préfiguration, et parce que chacun est très différent, les enjeux des territoires sont différents, la mobilisation des territoires est différente. On est peut-être le plus petit, mais on est le plus collectif et le plus motivé.
Alors, on parle de collectif, on va passer la parole à Jean-Yves Béchler, donc directeur général du SMTC, donc syndicat mixte des transports de l'aire clermontoise, de la métropole clermontoise. Alors là, vous êtes complice, effectivement, parce que vous avez porté fortement ensemble le dossier qui a été présenté au pouvoir public et labellisé en juillet. Madame Trogoff connaît bien la question aussi. Et donc, la métropole clermontoise, quelle vision, Jean-Yves Béchler?
Alors, je pense que c'est tout à fait exact. On a sur ce territoire une volonté commune depuis maintenant plusieurs années, et on a 12 à 18 mois pour la transformer en un projet commun. Alors notre ambition, c'est de faire le plus vite possible. Ça, c'est les 12 mois, c'est ce qu'on a inscrit dans la convention de financement. Et puis, si par un hasard extraordinaire, il fallait courir après l'argent, peut-être qu'il faudrait passer de 12 à 18 mois, mais l'ambition, c'est quand même d'aller assez vite. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir une vision commune sur ce territoire et pour qui ? Vu de la métropole clermontoise, vu des autres territoires de ce grand bassin, la première question, c'est celle, évidemment, de l'accès. Pour la métropole, on a construit un projet qui s'appelle le projet Inspire, dans lequel la clé, c'est de dire, pour tous les habitants de la métropole, il est possible, en 30 minutes, d'accéder à l'ensemble des services supérieurs qu'on trouve dans une métropole. Les services supérieurs, ça va être l'université, ça va être l'hôpital, ça va être bien sûr aussi le bassin d'emploi. L'ambition commune, le projet commun qu'on porte au travers du CERN, en fait, c'est exactement la même chose répliquée à notre échelle territoriale, c'est-à-dire donner la possibilité à tous les habitants de notre grand territoire de pouvoir effectivement accéder à l'emploi, accéder aux services dans les différents bassins. Et avec le projet de CERN, eh bien, le bassin d'emploi de Vichy, de Rion, de Clermont, d'Issoire, ça devient un terrain de deux tiers, ça devient un terrain de jeu commun, et donc les habitants de notre grand territoire peuvent effectivement accéder à l'emploi, et de la même façon aux services supérieurs. C'est l'ambition, c'est la raison pour laquelle on se présente dans une échelle, Frédéric Aquilera le dit aussi régulièrement,
vice-président
qui va de 15 à 70 kilomètres, et qui va permettre aux gens d'accéder en un temps raisonnable, en fait, à l'ensemble des services. Ambition commune, métropolitaine, avec les communautés d'agglomération, avec l'ensemble des EPCI du territoire qui sont aussi représentés par le pôle métropolitain, simplement parce que nous construisons ensemble l'avenir de ce grand territoire, qui passe par une réforme profonde des mobilités, on le sait, hein. Les habitants de notre territoire, ils sont confrontés à l'augmentation du coût de l'essence, ils sont aussi confrontés à l'augmentation du coût des véhicules. Et donc demain, la question du transport, de la même façon d'ailleurs que la question du logement, sont des éléments en fait très forts dans le pouvoir d'achat des Français. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle la métropole, avec l'ensemble des territoires à égalité, ça c'est très important, eh bien, participe à ce projet commun. Et on se retrouve dans cette égalité, dans le plan de financement lui-même, puisque c'était dit par Frédéric Bonichon, dans cette phase d'étude, l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité ont décidé de contribuer au prorata de leur population à la conduite de cette phase d'étude.
Alors, une autre question basique, très rapidement. Aujourd'hui, vous l'estimez à combien ce CERN de l'aire clermontoise ?
Alors, là aussi, il faut se méfier d'aller trop vite. Et c'est très important ce que je dis là. C'est-à-dire qu'on va conduire 12 mois d'études. Dans ces 12 mois d'études, Frédéric Bonichon l'a rappelé, c'est aussi l'ambition de la métropole. Nous, on veut faire quelque chose qui soit robuste et quelque chose qui soit peu coûteux, parce que c'est notre avantage compétitif dans ce système. Parce qu'on saura aller vite, parce qu'on fait pas trop cher, eh bien, on a des chances de sortir au profit de tous les habitants. Donc, on va investir, bien sûr, sur du train, c'est le travail de la région, qui a des et de la SNCF, qui ont des ambitions, bien sûr, dans ce, voilà, avec des horizons, en 2028, 2029, des choses de cette nature. Et c'est aussi l'ambition de... Eh bien, des partenaires AOM qui ont fait des chocs d'offres sur le territoire. Donc ça, c'est de la contribution que nous avons déjà mise sur la table. Parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, et c'est un principe assez commun dans notre territoire que de se prendre en main et de montrer par nos réalisations qu'on mérite, au fond, hein, de pouvoir porter une vraie politique attractive sur notre...
Je repose quand même ma question.
Et donc, ensuite, il y a des investissements à faire. Et ces investissements, ils vont porter sur le fer, ils vont porter sur la route, ils vont porter sur des aménagements dans les gares, dans les pôles d'intermodalité, pour qu'on puisse aussi arriver, par exemple, en voiture ou en vélo dans les gares, abandonner ce moyen de transport et se diriger vers les différentes aires qui sont notre grand territoire, que ce soit à nouveau Vichy, Clermont, Rion, Thiers ou Issoire. Ça, ça va coûter de l'argent. Si je vous dis aujourd'hui combien je vous mens, notre objectif, c'est de justement, dans ces 12 mois, évaluer combien ça va valoir, en ayant toujours en tête, là je regarde Patrick Oliva, la frugalité, puisque c'est son grand leitmotiv.
Frugalité économique.
Frugalité économique, au profit de tous, parce que c'est de l'argent public hein, qu'on va mettre, en remplacement d'argent privé, parce que jusqu'à présent, c'est les citoyens qui payent par leur voiture leur déplacement. Et là, on est quand même en train de mettre de l'argent public pour donner une solution qui vient remplacer en partie de l'argent privé. Donc, il faut être économe.
D'accord. Il nous manque une carte, évidemment, de ce futur CERN de l'aire clermontoise pour des raisons techniques. Là, on n'a pas pu vous la présenter ce matin. Mais, bien entendu, c'est depuis, comme ça a été souligné, depuis Vichy, voire Moulins, jusque, il y a plusieurs cercles, hein, jusque Brioude, du nord au sud, et de l'ouest à l'est, de Volvic à Thiers. Voilà, donc le périmètre, le premier périmètre de ce CERM. Alors, je me tourne vers la représentation nationale, notre député Delphine Lingman. Donc, bien sûr, sa vision de ce CERM, et puis, bien entendu, l'Assemblée nationale est un très bon observatoire et intervenant dans le débat budgétaire. Est-ce que, la même question qu'à Madame de Trogoff, est-ce que pour vous, ces CERM, c'est un long fleuve tranquille ou bien ils sont menacés par la crise budgétaire?
Alors, bonjour à toutes et à tous. À mon tour, moi, je suis ravie d'être parmi vous sur un sujet aussi essentiel que les mobilités territoriales, notamment sur notre région. On va rajouter ça. Alors, c'est vrai que si on est ici, c'est parce qu'il y a eu d'abord, et je le rappelle, les initiatives parlementaires. Sans initiatives parlementaires, alors que l'Assemblée nationale est souvent décriée, il n'y a pas de CERN aujourd'hui. Dans ma précédente législature, moi, j'étais membre de la commission développement durable, aménagement du territoire. C'est la commission où il y a la compétence des mobilités. Et donc, nous avons effectivement examiné cette proposition de loi de Jean-Marc Zuilesi, qui était alors président de la commission des DAT, enfin développement durable et aménagement du territoire, j'ai dit les signes aussi, sur la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains. Alors, c'est vrai que c'est une proposition de loi qui a été examinée en procédure accélérée pour aller vite, comme son nom l'indique. Donc on a promulgué, la loi a été promulguée en décembre 2023, mais avant il y avait eu d'autres initiatives quand même, notamment à travers la loi LOM,
d'orientation sur les mobilités.
Comment ?
La traduction de l'homme.
Oui, c'est une loi sur les mobilités, voilà, c'est une loi d'orientation des mobilités. Et en fait, c'était une loi qui visait à proposer des alternatives à l'automobile, sans pour autant mettre en danger notre filière automobile. Et aujourd'hui, on en a besoin. Voilà. Parce que dans certains territoires, c'est le seul moyen aussi de se déplacer. Alors, cette loi, pour revenir, cette loi, il y a eu des rapports de la SNCF Réseau aussi qui parlaient à l'époque d'étoiles ferroviaires et non pas de RER métropolitain ou de services express régionaux métropolitains. Et donc, ce premier rapport en octobre 2020 avait listé 28 métropoles et agglomérations pour en faire l'objet de ces étoiles ferroviaires. Donc, on était parti quand même de 28 étoiles. Et puis, il y a eu également ce fameux rapport sur lequel la proposition de Jean-Marc Zuilesi s'est appuyée, c'est le rapport du COI, le Conseil d'orientation des infrastructures, qui était présidé, qui est présidé, je pense, toujours par David Valence, mon collègue aussi des Vosges, voilà. Et donc, qui annonçait, suite à ce rapport, donc sur... alors, c'est un rapport intitulé, je le dis, hein, investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leur transition. Et dans ce rapport-là, il était aussi question des services express régionaux métropolitains, et je crois que c'est la première fois qu'on a utilisé ce terme de services express régionaux métropolitains. Alors, pour revenir à la proposition de loi donc adoptée fin de l'année dernière, donc on voit que ça s'accélère quand même, portée par Jean-Marc Zuilesi. Elle a fixé les contours financiers et juridiques des CERM. Voilà, on peut utiliser ces mots au CERM, voilà, je pense que. Et notamment voilà, sur les finances, avec un financement partagé, dans le cadre notamment des contrats plan État-région, mais aussi en incluant, et ça il faudrait qu'on y aille un petit peu plus, les autorités mobilisatrices organisatrices de la mobilité. Et ça, je pense que c'est c'est le levier de réussite de ces projets-là, de les intégrer dans ces projets. Alors, financement, c'est vrai que vous m'avez posé la question, je vais revenir dessus. À l'heure actuelle, c'est vrai que des efforts budgétaires doivent être portés par tous, que ce soit par l'État, et aussi, ça va pas te plaire, peut-être Frédéric, mais aussi en partie par certaines collectivités territoriales, je ne dis pas toutes, mais je pense qu'il y a un effort budgétaire à faire, il faut être raisonnable. Je ne veux pas me prononcer puisque l'étude du projet de loi de finances pour 2025 n'est pas encore finalisée, mais sur les CERN, une chose est sûre, c'est que la proposition de loi de Jean-Marc Zuilesi avait indiqué notamment l'organisation d'une conférence nationale de financement des CERN. Et cette conférence nationale de financement des CERN devait avoir lieu avant l'été 2024. On sait ce qui s'est passé, dissolution, donc on n'a pas pu organiser cette conférence de financement. Et donc j'ai pris la tâche cette semaine donc, du cabinet du ministre des Transports, François Durovray, qui confirme l'organisation de cette conférence donc, de financement des CERN pour début 2025. Donc c'est dans ce cadre de cette conférence que seront décidées les clés de répartition de financement, que seront aussi affectés les crédits budgétaires. Et donc je pense que nous tous ici présents, nous sommes vraiment, nous serons vraiment attentifs. Et comme je l'ai fait jusqu'à présent, que ce soit pour les CERN, que pour toutes les mobilités, y compris les mobilités solidaires. Tout à l'heure, je parlais d'une proposition de loi sur la location solidaire pour des véhicules individuels dans nos territoires ruraux. Voilà, ces enjeux de mobilité. Alors, moi, soyez assurés que je les suis parfaitement à l'Assemblée nationale. Sur ces financements, donc sur peut-être le CERN Clermont-Auvergne, moi je partage ce que dit la région. C'est vrai qu'à un moment, il faut que sur nos territoires, pour que ça avance, l'union fasse la force. Et que tout le monde travaille en dehors de toute politique politicienne et s'appuie sur les bonnes personnes, les bons acteurs, en fonction de leurs compétences et leur champ d'action. Et ça, c'est très important d'œuvrer ensemble pour la réussite des projets que nous portons sur le territoire. Alors, la région... les députés qui peuvent appuyer. Moi, je peux vous dire que sur l'habilitation du CERN Clermont-Auvergne, j'étais en contact avec le cabinet Christophe Béchu et avant même l'annonce, il m'avait dit qu'on serait retenus. Donc chacun à notre niveau, on a un rôle à jouer. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je le jouerai pleinement moi, à l'Assemblée nationale en faisant fi de toute politique politicienne qui n'a pas lieu d'être sur ce type de projet. Je ne sais pas ce que je peux rajouter sur
le CERN. Je crois qu'on a dit l'essentiel, on va donner la parole aussi aux autres participants. Madame Dutrogaf, s'il vous plaît, juste un petit mot rapidement pour nos amis stéphanois, parce que vous suivez aussi le dossier du CERN, du projet de CERN de Saint-Étienne. Luc François, vice-président de transport de Saint-Étienne Métropole, n'a pu participer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement quelques mots où l'on en est aussi du côté de Saint-Étienne?
Juste vous dire aussi, évidemment, je ne veux pas parler au nom du territoire, mais vous dire aussi que ça avance sur le territoire stéphanois, ça a été rappelé, la volonté de la région, c'était d'avancer sur les 6 CERN de la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc sur le territoire stéphanois. D'ici la fin de l'année aussi, la même phase de préfiguration sera lancée, avec toujours une adaptation, un territoire complètement différent, des signataires beaucoup plus resserrés de la convention, c'est lié au territoire, et puis une adaptation, mais là aussi, l'enjeu, ce sera d'avoir des améliorations de services de transport rapides, de bien faire le lien évidemment sur le ferroviaire entre étoile ferroviaire stéphanoise, étoile ferroviaire lyonnaise, mais d'améliorer pour les transports du quotidien sur le bassin stéphanois et jusque la Sud-Loire, etc., d'améliorer le plus rapidement possible ces transports, y compris par des modes, notamment routier, on l'a dit, vélo, covoiturage, car express, etc. Donc c'est en bonne voie.
Et avec le cadencement, qui est un mot aussi majeur, des transports dans le cadre du CERN.
Oui, avec une amélioration du cadencement sur l'étoile stéphanoise qui est visée, évidemment.
Sachant qu'on a pris en France beaucoup de retard sur les CERN, puisque dans tous les pays européens voisins, y compris l'Italie, l'Espagne, on s'aperçoit que toutes les grandes métropoles régionales ont développé depuis longtemps ces CERN à leur échelle, et donc il y a vraiment un rattrapage français nécessaire. Alors, on va continuer, très rapidement.
Oui, très rapidement, si je peux juste rajouter quelque chose sur le financement des transports publics de manière générale, et puis des CERN en particulier, il y a ce fameux versement mobilité, les questions actuellement de le déplafonner au niveau du Parlement, donc pour ouvrir des mannes financières, et c'est un vrai levier de financement de ces nouveaux modes de transport et de ces infrastructures, et je pense que vous attendez ça avec impatience. Moi, je rajouterais juste qu'il faut ce déplafonnement à condition que la qualité de service soit au rendez-vous pour les entreprises, parce que ce versement mobilité est un impôt pris en gros sur les entreprises, pour résumer. Mais il faut que la qualité entre de transport commun entre le domicile et le travail soit au rendez-vous. Donc voilà, ça c'est un autre levier de financement qu'il va falloir sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse pour l'optimiser.
Merci. On va demander à M. Goupil de nous donner très rapidement, parce que l'heure tourne et il faut qu'on termine pour midi, donc très rapidement, la vision de l'État, des services de l'État en région, la DREAL, la Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, j'y arrive. Donc très rapidement, votre perception, puisque vous êtes acteur, évidemment, de ce service.
Bonjour rapidement, s'il vous plaît. Donc, peut-être tout d'abord, juste préciser un peu le rôle de la DREAL. Sur le territoire et sur les projets de CERM notamment. Donc le projet de CERM, comme l'ont dit les précédents intervenants, c'est avant tout un projet porté par le territoire et par les collectivités et par les autorités organisatrices des mobilités. Les services déconcentrés de l'État se placent en accompagnement, d'abord en accompagnement technique. On s'assure que tous les éléments qui sont présentés, les conventions qui sont signées, sont en accord, et le contenu des conventions notamment, des missions de préfiguration, sont en accord avec les attentes de la loi et les attentes de la DGTM qui découlent justement cette loi dans des documents cadres. Donc ça se traduit par une présence aux échanges et aux nombreuses instances qui se réunissent régulièrement sur tous les CERM de la région. Une participation au financement, notamment de la phase d'émergence, via le volet mobilité du CPER.
Du contrat de plan État-région.
Comment ?
Du contrat de plan État-région,
oui, pardon. Et donc l'État interviendra notamment à 50% sur le financement des études des missions de préfiguration. Donc ça, c'est pour un peu le rôle de la DREAL en général. Maintenant sur le CERM, particulièrement le CERM de Clermont-Ferrand. On se félicite au niveau local du dynamisme et de l'entente entre tous les partenaires, parce que c'est un CERM qui est quand même s'étend sur un périmètre assez grand. De Vichy à Brioude, de Thiers à Volvic, on a quand même un périmètre qui est plutôt grand, avec de multiples centralités urbaines. Et on se rend compte qu'on a quand même une organisation multipolaire. Et on se rend compte qu'on a quand même une bonne coordination entre tous les acteurs, ce qui a permis de faire émerger ce projet-là et d'avancer très rapidement, puisqu'on est quand même dans les premières conventions à être finalisées et à être mises en signature. Donc c'est quand même un très bon signal qui est envoyé par le territoire. Je disais que le périmètre est assez étendu, mais il repose quand même sur une structure ferroviaire qui est assez bien développée et qui permet de relier globalement toutes les grandes agglomérations qui constituent ce périmètre du CERM. Et donc ça servira de base pour le développement de ce CERM-là. Et ça permet justement d'avoir une ambition et des coûts d'investissement, raisonnables, et qui permettront de développer rapidement ce CERM-là. Et enfin, une vision importante qui est partagée par les acteurs, c'est la nécessité d'avoir un premier saut d'offre à très court terme pour permettre de lancer la démarche. Et donc c'est ce qui a été traduit notamment dans la convention, avec un objectif d'un premier saut et d'un premier choc d'offre avant 2029. Donc ça, c'est un très bel objectif qu'on partage au niveau d'Adrien.
Merci. Vous l'avez souligné aussi, tous implicitement ou explicitement, la multimodalité est évidemment au cœur de ce CERM, mais pour les nôtres aussi. Bien sûr, le ferroviaire est la pièce maîtresse, et on a la chance, comme vous le souligniez, d'avoir encore en Auvergne un réseau assez bien constitué, mais l'articulation avec les autres modes de transport, les bus pour le territoire urbain, le vélo, comme le soulignait aussi Frédéric Bonichon, tout cela est important, c'est vraiment l'une des ambitions. Alors, on termine au niveau des participants par la SNCF, par Gilles Petitet. Alors, il faut souligner, bien sûr, que la SNCF est un partenaire très important de tous les CERM, et notamment de CERM de l'aire clermontoise. Elle suit ça aussi avec d'autres acteurs de la mobilité, mais c'est un acteur majeur, la SNCF. Et donc, Gilles Petitet est directeur de l'innovation pour Télé, voilà, pour au sein de la SNCF, pour ce projet de train léger innovant. Et donc, il nous l'a déjà présenté hier, c'est tout à fait passionnant, puisque à l'horizon 2020, 2030, on va vers la fin des trains diesel, et donc là, voilà, on prépare, techniquement, on se prépare des solutions de remplacement. Alors, quelques mots sur ce train léger innovant, assez prometteur, et avant d'engager le dialogue avec la SAN.
Oui, juste rapidement, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu hier, donc c'est un train qui fait 80 places assises pour 30 mètres de long, ce qui fait à peu près 160 places, si on compte les personnes assises et debout. Il est complètement décarboné, donc soit batterie, soit H2. Et on a travaillé ce projet, oui, enfin hydrogène.
Oui, merci.
Et on a travaillé ce projet dans l'esprit vraiment d'une approche systémique, c'est-à-dire infrastructure, matériel roulant, exploitation. Puisque effectivement, si on veut faire du frugal, il faut impérativement avoir cette approche globale. Donc, pour continuer sur ce qui a été dit précédemment, si on observe cette belle coordination au niveau local, il va falloir également l'organiser au niveau national. Parce qu'en fin de compte, moi, quand j'ai commencé le projet, j'étais tout seul sur le projet en 2020, quand j'ai commencé à contacter les industriels, finalement, ça suscitait pas véritablement l'enthousiasme. Des petits trains frugaux, vous ne voyez pas franchement un débouché commercial. Heureusement, il y a eu l'État, il faut le souligner, avec le PIA4 et l'ADEME qui ont permis de lancer des projets de trains légers innovants. Alors, le TELI, plus d'autres projets qui sont actuellement en cours. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une coordination au niveau national pour offrir une perspective de débouchés industriels qui soit suffisamment importante pour que ces innovations, qui sont quand même coûteuses à développer, puissent se concrétiser par des débouchés industriels. Voilà, innover, c'est prendre un risque. Là, l'État a bien pris sa part dans la contribution au risque. La frugalité, pour être honnête, dans une situation où le monde ferroviaire se porte plutôt bien, ça reste un problème. Donc, ce qu'il faut, si on ne fait pas le projet, hein, si je veux parler juste du projet, si on ne le fait pas, on risque d'avoir des trains surcapacitaires qui amèneront des surcoûts par rapport aux besoins et qui permettront pas le choc d'offre qui est attendu par les collectivités locales. Donc, nous, l'attente particulière du projet, c'est qu'assez rapidement, on puisse avoir les AOM qui se coordonnent, voilà, quel que soit leur niveau, pour avoir un volume de commandes, que ce soit sur la partie matériel roulant ou infrastructure, qui soit suffisamment importante pour finaliser les études qui demandent des investissements qui sont extrêmement conséquents. Par ailleurs, il faut quand même le souligner, grâce au financement de l'État, pays A4, on est relativement en avance par rapport aux autres pays. Alors on regarde aujourd'hui le monde français, mais les mêmes problématiques se posent au niveau européen, voire mondiaux. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse aussi transformer cette avance que l'on a d'un point de vue innovation et développement pour également avoir des débouchés industriels qui sont intéressants pour toutes nos entreprises qui travaillent dans le monde ferroviaire. Elles sont nombreuses hein, dans le projet. Il y a Alstom, il y a Texelis qui est une ETI, il y a CAF qui a une volonté importante de s'installer en France, hein, qui a racheté, je le rappelle,
entreprise espagnole.
Le site de Rechaufen. Plus qui avait acheté précédemment les établissements soulés en Occitanie. Donc il y a vraiment une forte volonté d'investir en France. Je pense qu'on a tout pour réussir. Voilà, maintenant, ce qu'il faut juste, c'est que ça cristallise pour que, compte tenu des temps de développement qui sont ce qu'ils sont, aujourd'hui, bon, on est en fin 2024, idéalement, selon notre planification et notre rétro-planning, si on veut être prêt pour l'emplacement des petits trains de 30 mètres qui sont dans nos villes et qui correspondent, je pense, aux besoins, que dès 2025, on puisse pouvoir lancer des appels d'offres, pour que dès 2029, on puisse commencer à faire des validations, et fin 2030, entre 2030 et 2032, pouvoir véritablement les voir dans les villes.
Alors, comme on l'a vu dans la table ronde d'hier soir sur l'innovation ferroviaire, il y a bien sûr plusieurs acteurs, outre la SNCF, ça transporte pas mal, ça recherche
oui,
pas
bien
mal.
Sûr, oui, bien sûr, c'est voilà, ça. C'est justement d'ailleurs le sommet, hein, c'est voilà. Qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont complémentaires.
Voilà, absolument. Et donc, on peut dire qu'en tous les cas, TELI, c'est un train monocaisse, une seule voiture, 80 places, mais avec la perspective de 30% de coût de réduction d'exploitation, n'est-ce pas?
Voilà. Au global, sur quand on regarde, on a pensé le train à la fois par rapport à l'électrification, puisqu'on doit faire quelque chose de décarboné. Donc on a 200 km d'autonomie pour pouvoir assurer les missions qui sont à, on va dire, 100 km, mais il faut pouvoir faire les allers-retours, il faut avoir le temps de recharger, il faut pouvoir faire les roulements dans la journée, donc il faut vraiment viser plus haut. Enfin voilà, tout un ensemble de dispositifs que je ne vais pas développer, mais qui sont vraiment dans cette approche globale. Il faut aussi citer la signalisation, une signalisation frugale, qui permet de faire plus de qui permet de faire plus de débit sur les lignes, souvent à voie unique. Voilà, donc il y a tout ça qui est en cours de développement. Maintenant, il faut transformer.
Alors, ces trains légers innovants, pour conclure là-dessus, évidemment, sont des atouts des espoirs à l'état actuel, très importants pour les territoires ruraux, notamment. Et dans le Massif central, on a un intérêt particulier.
1000 lignes, 1000 kilomètres de lignes.
De petites lignes de desserte fine du territoire. Alors, on va s'adresser il y a certainement des questions dans la salle du public pour ce sujet passionnant. Donc, il nous reste peu de temps, mais on peut prendre quelques questions pour nos participants. 15 minutes, 15 minutes, c'est royal, monsieur le président. Voilà. Alors, une première question, je crois, d'une association, n'est-ce pas? On va peut-être vous donner un micro. Merci.
Marc Coutebrosse, porte-parole de collectif, en fait, de 18 associations et des collectifs sur le Rhône-Alpes-Auvergne du CG, qui s'appelle Orail.
Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort.
Oui. Notre crainte, suite à l'installation future des CERN, des RER métropolitains, c'est qu'il y ait un phénomène de métropolisation des habitants, que les gens se reportent sur les zones couvertes par les CERN, et donc qu'il y ait une accentuation de l'exode rural, on va dire, sur Auvergne, surtout sur l'Auvergne.
Donc ça, c'est une crainte que vous exprimez, mais votre question?
Alors la question, c'est, on propose, nous, et on demande à ce que, à l'extérieur du CERN, il y ait un cadencement également qui soit fait au moins à 2 heures. C'est-à-dire à l'intérieur du CERN, 30 minutes ou 15 minutes, peu importe, et à l'extérieur, qu'on profite de cette remise en place de tout le réseau régional pour qu'il n'y ait pas de cadencement inférieur à 2 heures à l'extérieur, c'est-à-dire entre les CERN. Et puis également qu'il y ait une refonte des grilles horaires, que l'aspect horaire soit étendu de 5h30 du matin à minuit en semaine et puis à 2h le week-end, comme ça se fait un peu partout en Europe. C'est un peu notre demande.
Donc ça, c'est une demande. Peut-être Frédéric Bonichon, un mot, très rapidement.
Oui, je ne suis pas spécialiste des fiches horaires et du cadencement.
Par rapport au projet global.
Voilà. Mais il y a deux parties du territoire. Il y a la partie nord où c'est objectivement plus simple vers Montluçon-Moulin, et c'est d'ailleurs déjà le cas. Le Moulin est à 50 minutes de Clermont-Ferrand ou de Rion. Et puis il y a le sud où c'est forcément un petit peu plus compliqué par la topographie. Mais c'est bien l'engagement aussi qu'a pris la région de pas, on va dire, faire ce qui aurait pu être une vraie crainte, de dire faire un CERM très dense sur l'hypercentre et en abandonnant la ruralité. Je crois que sur ces sujets-là, l'abandon de la ruralité, c'est plus compliqué en mobilité, mais le fait qu'on soit en multimobilité, pas uniquement sur le rail, permet d'offrir des solutions à terme sur d'autres manières de faire. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est l'ambition de la région.
Delphine Lingman, vous vouliez ajouter un petit mot, rapidement, toujours rapidement. Ce sont des services express.
La troisième couronne finalement prévue dans le projet de CERN Clermont-Auvergne va sur un périmètre, sur un diamètre de 150 km autour de la métropole clermontoise. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la topographie, notamment la chaîne. Des puits, et c'est l'ouest et l'est qui posent aussi problème. Je complète ton propos, en fait. L'est et l'ouest sont aussi problématiques, c'est-à-dire aller chercher les habitants dans le Bourgadois et dans le Sancy. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à optimiser cet axe-là, est-ouest, justement pour pouvoir permettre à des habitants demeurant sur cet axe-là d'accéder à la métropole, et je vous rejoins là-dessus.
Une autre question.
Oui, bonjour, Jean-Marc Peniro, participant à Orbimab. Je rebondissais un peu sur l'inquiétude de monsieur et je voulais poser une question. Les études qui concernent l'enquête du CERN vont intégrer, je pense, et vous allez me le confirmer, vous le dire, des systèmes complémentaires, bus, vélo, la réactivation, la possibilité éventuelle de réactiver des lignes un petit peu délaissées ou oubliées avec des systèmes innovants.
Je vais prendre celle-là. Et je pense que donc la réponse est évidente. C'est oui. Pour faire un projet frugal, on fait un projet qui mixe toutes les solutions de transport. La deuxième chose, il faut toujours désactiver les craintes. Je pense que c'est très important. Le projet qu'on conduit, c'est un projet plus. C'est pas un projet moins. Donc la première des choses, c'est de porter un combat collectif qui va vers le plus, parce qu'il s'agit de mettre plus d'offres sans en retirer ailleurs. C'est plus d'offres parce qu'on s'organise mieux et qu'on est capable de faire davantage de choses. Et je dis d'un point de vue très métropolitain, c'est pas la faute des métropoles si elles grossissent. Donc il ne faut pas non plus se tromper de combat. Les questions d'aménagement du territoire, ça se passe aussi à l'Assemblée nationale. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on amène des services en plus à des gens qui en ont besoin sur ce territoire. Et effectivement, on va le faire en ajoutant des nouvelles choses. Des cars express dont on ne dispose pas, qui vont irriguer des territoires, y compris des territoires ruraux de notre zone. Le choix qu'on a fait collectif pour désactiver les craintes aussi. On aurait pu faire un truc à tous les deux là, Riom-Clermont. C'est là où il y a le plus gros bassin. On aurait pu faire ça. On aurait pu faire Riom-Clermont-Issoire. Le constat, c'est que le projet qu'on porte, c'est pas celui-là. Il va jusqu'à Vichy, il va jusqu'à Thiers, et ce faisant, comme vous le voyez bien, il traverse les zones qui sont moins denses, objectivement. Voilà. Donc je dis ça parce que quand on doit porter, et c'est la volonté, je crois, de tous, un projet très coûteux, ben, il faut qu'on fasse bien attention à ne pas se dire « Ah là là, mais si l'argent va là, il n'ira pas ailleurs. » Parce qu'en réalité, en faisant ça, on ne fera rien du tout. Dans ce territoire, on a perdu plein d'opportunités, on le sait tous. Il y a eu des sujets de train grande vitesse, il y a eu des sujets de rénovation de lignes. Donc il y a un moment, et voilà, il faut aussi se dire que là, on a une chance, on s'y met ensemble, c'est notre volonté commune, et qu'on va y arriver, et c'est bien du service en plus. Il n'est pas prélevé à côté. C'est un des gros efforts de la région, je crois pouvoir le dire aussi sans me tromper, que dans son choc d'offres, hein, vouloir ajouter des services non seulement sur le train, mais aussi sur le car. Et c'est aussi pour ça que côté métropole, on joue. Hein. C'est parce qu'on croit qu'on va tous faire ensemble ce choc d'offres au profit de tout le monde.
Une autre question.
Je rajouterai juste quelque chose par rapport à cette intelligence collective nécessaire au service de ce projet. C'est qu'il faut pas opposer métropole et territoires ruraux, parce que nous avons des étudiants, les métropoles, c'est là où il y a les universités, c'est là où il y a beaucoup d'entreprises, et donc il faut faciliter ces déplacements entre le lieu d'études et le lieu de travail et son domicile, tout simplement.
Alors, une autre question. Allons-y, à droite.
Oui, Christian Roy pour la ligne Clermont-Ferrand, Le Mont d'Or, Ussel, Tulle. Est-ce qu'il y a une possibilité d'élargir le CERM jusqu'au Mont d'Or, par exemple, pour desservir tout l'ouest de la métropole, puisque vous avez parlé du nord, de l'est, du sud, mais vous avez un peu oublié l'ouest.
Frédéric Bonichon.
Oui, mais bon, bien sûr, on a aussi parlé de l'ouest, donc faut pas qu'on redise tous, mais nous, moi j'ai dit ça, sinon c'est pas une table ronde. Oui, mais on en a parlé, Delphine, c'est bon. Donc, non, la question, tu l'as dit l'ouest et l'est, moi j'ai dit le nord et le sud, donc on a parlé de toute l'Auvergne. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, faut pas qu'on dise qu'on va emmener des trains de 30 minutes partout, parce que c'est pas vrai. Et c'est en disant ça qu'on fera rien. Donc je pense qu'il faut qu'on densifie là où il y a une densité de population, et il y a d'autres sujets. Mais je redis que, par exemple, les AOM, notre compétence, c'est d'organiser le transport sur nos territoires. Et donc là, déjà, on en sort, puisqu'on va, on cofinance les études sur, on va dire, y compris du ferré. On n'a pas de compétence en ferré. La région n'a pas de compétence elle a de la compétence sur le service des RER, mais pas sur les aménagements. Pourtant, elle met 50% de la phase des 350 millions du CPER mobilité.
Du contrat de
et donc, on va tous sortir de nos champs. Mais je le redis, même si c'est politiquement incorrect, on ne réouvrira pas Tiers-Point dans le contexte du CERM et on ne réouvrira pas Volvic-Ussel dans le contexte du CERM. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que le CERM, c'est à 30 minutes en gros du centre de la métropole. On va intégrer par exemple Gannat, qui est clairement pas dans le pôle métropolitain, mais qui est dans l'étude. Et d'ailleurs, les élus de la communauté de communes de Gannat Saint-Pourçain ont fait acte de candidature pour rejoindre le pôle. Et je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'ils disent on veut bien payer un bout de l'étude, mais autant qu'on soit dans le pot commun de la réflexion. Donc les autres sujets, Et j'en sais quelque chose puisque ça concerne aussi la ligne qui dessert Volvic en transport de ferré, ça concerne aussi le Mont d'Or, ça concerne tout ça. On a évidemment envie, mais je ne crois pas que ce soit dans le débat du CERN. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le porter. Voilà.
Dans une première étape, en tout cas, et peut-être sans insulter l'avenir pour la suite. Voilà. Une question,
oui,
Karine Legrand.
Karine Legrand de l'association Le Train 63-42-69, qui justement, en fait, actuellement œuvre pour la réouverture de la ligne ferroviaire entre Clermont et Saint-Étienne. Alors, j'ai deux questions à poser. Oui, tout à fait. La première, c'est en fait, et là je m'adresse à vous, madame, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un CERM sur Saint-Étienne, un CERM sur Clermont-Ferrand, et notre crainte en tant que en fait association d'usagers, hein, je précise, et bien et d'élus également, puisqu'il y a des élus au sein et des communautés de communes, ainsi qu'en fait des communes qui sont au sein de notre association, c'est en fait le fait qu'il n'y ait pas une réflexion quand même de liaison inter-CERM, notamment parce que là vous avez parlé du CERM de Saint-Étienne et de Lyon, qui effectivement bon, c'est cohérent, mais également que dans la réflexion ne soit pas oublié malgré tout ce lien entre les CERM. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la loi LOM a permis en fait que des usagers, des habitants, enfin des citoyens, puissent participer également en fait à différentes commissions ou enfin structures. Je suis très étonnée qu'au niveau des CERM, sachant qu'en fait vous avez la chance d'avoir en Auvergne-Rhône-Alpes, comme le disait Margot de Brose, plus de 18 associations d'usagers qui participent à des réunions de concertation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des gens qui réfléchissent, qui travaillent, qui œuvrent pour améliorer en fait les transports en commun au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que en fait les usagers ne soient pas, notamment ces structures-là, comme dans la loi LOM, ne puissent pas participer au CERM. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des élus. Et qui la disponibilité des élus aujourd'hui n'est pas forcément facile, parfois aléatoire. Et donc, voilà, moi je me pose la question, pourquoi cette partie-là n'a pas été inclue, et que c'était en fait les ouvertures actuellement, et le travail qui est fait, souvent fait tripartite avec des experts, des élus et des citoyens, pratiquement dans tous les domaines de notre société actuellement.
Alors, des éléments de réponse.
Merci madame pour cette question. Je pense que ça rejoint en fait votre question, rejoint des questions qu'on a abordées, c'est-à-dire que les CERM ne feront pas tout. Il y a déjà 24 CERM, on a abordé 24 CERM qui ont été labellisés, ça couvre déjà beaucoup de territoire. Et c'est pas parce qu'on va faire des CERM qu'on ne va rien faire autour, entre, etc. Vous avez raison, il y a un CERM Clermont-Auvergne, il y a un CERM Saint-Étienne, et dans la réflexion évidemment de la région, je ne doute pas que le lien entre le CERM stéphanois et le CERM clermontois soit regardé, et ça fera bien sûr partie des sujets. Le lien entre les CERM, d'ailleurs, figure dans la loi quand il y a moins de 100 km d'écart entre deux CERM. C'est aussi pour ça que Saint-Étienne-Lyon, c'était nécessairement, je dirais, regardé. Mais c'est pour dire que cette attention sur le lien entre les CERM, elle est bien présente. Ça ne veut pas dire que... c'est bien un territoire qui est entre les deux CERM parce qu'on est sur les déplacements du quotidien. Donc, en fait, on regarde le bassin de mobilité et les flux de déplacement du quotidien, mais c'est évident que les liens entre ces zones où il y aura une amélioration de l'offre seront regardés, et je pense que c'est le rôle de la région, bien sûr.
Alors, je sais pas si... Alors, je retourne sur la chef de projet d'Orbiba. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions ?
Je vais juste compléter en termes de gouvernance. Je pense que c'est très important aussi. Dans les projets de CERM, il y a plusieurs cercles de gouvernance. Donc, il y a le travail collectif qu'on mène entre les différents financeurs. Et c'est assez logique, hein, qu'il y ait ce groupe resserré qui soit le pilote, finalement, des actions qu'on va conduire. Et il y a un deuxième groupe dans lequel nous avons souhaité, sur notre territoire, avoir une association plus large. Et donc, il y a des partenaires qui sont mobilisés dans un deuxième cercle, qui sera d'ailleurs réuni, hein, c'est prévu dans notre convention de financement, qui sera réuni et donc qui permet d'associer plus largement, au-delà du cercle des politiques et des techniques. C'est aussi la raison par laquelle, par exemple, hein, dans ce cercle des partenaires, on retrouve l'association Orbimob. On a dit tout à l'heure qu'elle avait contribué en première phase avec un bout d'études ferroviaires. Voilà. C'est aussi par là qu'on récupère l'ensemble de la société civile qui amène évidemment des éléments de réflexion utiles à la construction d'un projet collectif qui va servir tous les habitants, tous les citoyens et donc aussi tous les usagers des transports.
Alors, je pense qu'on a encore le temps pour deux questions maximum, et puis ensuite on demandera une autre conclusion à Patrick Oliva, président d'Orbimob. Alors, Pierre Pomarel, président de la FNOT, Fédération nationale des usagers et des transports en Auvergne.
Voilà, deux inquiétudes. D'abord sur l'organe de gouvernance de ce CERM. Là, donc, on a quand même affaire à plusieurs entités qui sont bien différentes, la métropole de Clermont-Ferrand, les communautés de communes de Rion et celles qui sont en périphérie. Et il faut qu'on ait un système qui soit réellement décisionnel, qui puisse permettre d'être en coordination complète. Aujourd'hui, si on voit comment ça fonctionne, ça fonctionne pas bien. Hein. On a le réseau de Clermont-Ferrand et le réseau de Rion qui s'ignorent totalement, qui ne sont pas du tout connectés. Donc là, on a des déclarations d'intention qui vont dans le sens d'une meilleure coopération. Mais il faut qu'on ait un organe qui soit efficace, décisionnel, qui puisse permettre d'offrir un service qui concerne tous les habitants, parfaitement interconnecté. Et donc, il y a bien une difficulté à ce niveau-là d'avoir cette représentativité des territoires de façon à ce qu'ils soient tous traités avec égard. Et le deuxième point, j'ai des inquiétudes concernant le matériel, parce que là, on nous parle de matériel de petite capacité. Aujourd'hui, le souci des usagers, c'est d'être tassé dans les trains. Donc, pour le service express régional métropolitain de Clermont-Ferrand, on a besoin de capacités, donc d'autorails qui soient de capacités suffisantes. Et je viens d'apprendre que la région de Clermont-Ferrand serait probablement dessaisie de ces autorails de grande capacité qui seraient rebasculés sur d'autres régions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est une inquiétude pour nous. Aujourd'hui, la priorité, c'est de transporter les gens dans des conditions décentes, c'est-à-dire non tassés dans les trains, avec donc des capacités d'emport qui soient à la mesure des enjeux. Donc, autant le délit paraît un enjeu intéressant pour les dessertes des zones les moins denses ou bien pour l'interville lointain, mais il faut bien regarder qu'aujourd'hui, nos dessertes intervilles, elles servent aussi à incrémenter la desserte du grand périurbain Clermont-Ferrand. Elles font le plein quand elles arrivent à Issoire en provenance du Sud. Elles font le plein à Rion quand elles arrivent de Montluçon ou de Vichy. Et donc, pour nous, la priorité, c'est plus de prévoir des augmentations de capacité sur le matériel ferroviaire plutôt que de prévoir des autorails de petite capacité.
Peut-être deux éléments de réponse. Sur la gouvernance future, évidemment, ça reste à inventer. Et il y a une autre chose qui reste à inventer, les uns les autres l'ont dit, c'est le financement. Voilà, donc il y a plusieurs écoles. Est-ce que c'est un versement mobilité additionnel? Voilà, comment on associe? Mais il faudra plus d'argent et il faudra contribuer à ce pot commun. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura un GIP, un syndicat type l'OSRU, etc. Il y aura plusieurs solutions. Peut-être le mode de fonctionnement de Lyon sera différent de Clermont, qui sera différent du système genevois, qui est en plus sur deux pays, etc. Donc, quelle structure, quel mode de financement? Mais ce qu'on est certain, c'est qu'on va plus se parler demain comme c'est parlé hier, puisque l'objectif de tout ça, c'est qu'on ait d'abord un seul système de billettique, et que si j'habite à QC, je loue mon vélo à QC, je monte dans le RER, j'arrive à la gare de Clermont-Ferrand ou à la gare de Rion, et je prends un système d'une autre aglo avec mon même billet Et donc, il faudra qu'on se coordonne sur la billettique. Ça fonctionne déjà pas trop mal avec la billetterie Aura. Et il faudra qu'on se coordonne sur les tarifs, les reversements des uns des autres, et donc sur les horaires. Donc voilà, ça ne peut être que mieux demain, mais effectivement, c'est long, c'est compliqué. Moi, je viens de finir la DSP Transport. Voilà, on a accéléré, on est passé de cadencement à 1h30 à 40 minutes sur certaines lignes. Si demain, il faut repasser à 30 ou à 45 pour se caler, il faut des fois 2 ans d'écart, modifier une DSP, etc. L'Inspire, c'est 3 ou 4 ans de travail avant d'arriver à des solutions. Donc, on est sur le temps long sur ces sujets-là et on veut des réponses relativement courtes. Sur la réponse sur le matériel, je ne suis pas industriel, mais je crois comprendre qu'il y a eu des gros retards chez un industriel français de fourniture des rames, et donc ce qui explique que peut-être certaines affectations géographiques sont allées pour l'instant, ou devraient aller un peu plus tôt sur certains territoires que sur d'autres. C'est pas l'enjeu des collectivités locales. Je rappelle que la région ou les AOM, on construit pas de trains, on construit pas de rails, on achète des rames, on contribue au financement des rames, encore faut-il que les rames sortent des usines.
Mais sachant que la question se pose puisque on a une demande de train qui explose partout en France, la directrice de l'innovation TER, Madame Talotte, qui était avec nous en début du sommet des mobilités, rappelait que entre 2019 et 2023, la demande de train TER a augmenté de plus de 20% en France et on le sait aussi en Auvergne. Il suffit de monter dans des trains entre Vichy, Moulins, Vichy et Clermont-Ferrand ou Issoire, Clermont-Ferrand. Donc les réponses sont avec des trains innovants légers pour les territoires ruraux, certainement des TELI ou assimilés, mais aussi des trains de plus grande capacité qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, je crois qu'on va terminer parce que là, vraiment, on est vraiment arrivé au terme. Je crois que vraiment, on va essayer, vous pourrez parler, monsieur, peut-être avec nos invités après, très rapidement.
Monsieur le
Président, Patrick Oliva, soyez concis.
15 secondes. Quand je vous vois tous les 7 là, je suis heureux, vraiment, parce qu'on a une dream team formidable. D'accord ? Donc vraiment, c'est vraiment toutes mes félicitations. Deuxième remarque que je voudrais faire, on a beaucoup parlé d'innovation, très bien, de frugalité. La troisième dimension importante pour moi, c'est la réplicabilité. Je voudrais que notre CERF, ici sur la zone pontoise, amène des éléments de solution immédiatement réplicables dans d'autres lieux. Que ce soit des aménagements de gare, des manières d'opérer, etc. On n'aura pas d'investissement pour faire partout, mais il faut que ce projet de CERN Clermontois se caractérise aussi par cette capacité à créer des germes de nouveautés un peu partout dans le Massif central. Alors c'est une des préoccupations qu'on a avec monsieur le commissaire. C'est un peu notre leitmotiv, réplicabilité. Voilà. Il faut qu'on se distingue des autres projets par ça aussi. Mais c'est gagné, avec vous, il n'y a aucun problème. Et je crois qu'après, on a un moment merveilleux, puisque dans quelques minutes, on aura un cocktail. Et avant, on va en profiter pour faire un petit peu un tour des stands. Après, il y a beaucoup de choses à découvrir. Un immense merci à vous tous.
Merci à toutes les participants. Ben